L'antakarana, voilà un mot barbare, n'est-ce pas? Je vous rappelle à ce sujet que dans tout ce domaine nouveau au niveau terminologie, il est bien évident qu'à certains moments, il faut innover en matière de boîte à idées, c'est-à-dire de termes. Il était convenu que, sur le principe, si vous voulez, de ne pas innover pour innover. C'est-à-dire que lorsqu'un terme oriental existe, qui n'a pas de concordance avec le terme occidental, eh bien, on prenait le terme oriental. Antakarana, ça veut dire pont de lumière. Vous avez le tableau qui indique, vous l'avez je pense tous eu, qui vous indique la structure de manifestation d'une vie humaine, d'une monade humaine, jusqu'à sa présence terrestre. Ce que nous retrouvons sur ce tableau, à savoir la racine de vie qui est sur le deuxième sous-plan du plan physique cosmique, et cette vie à remplir son contrat de vie, ce contrat de vie étant de descendre dans les mondes de vie mineurs pour les élever, les faire progresser. Et en effectuant ce processus, cette vie en manifestation se libère de son contrat de vie. Nous avons vu que dans le schéma de manifestation de la monade humaine, il y a deux aspects fondamentaux, l'être permanent, l'âme, qui va traverser le règne humain, qui se trouve sur le cinquième plan, le plan mental, cinquième en partant du haut, troisième en partant du bas. Et à partir de ce plan, il y a descente dans les robes de la mer, c'est-à-dire dans les plans inférieurs, le plan mental concret, le plan astral, le plan physique. Et à partir de là, nous avons la présence terrestre de cette vie qui est sur le plan monadique, deuxième sous-plan du plan physique cosmique. Dans la projection de sa manifestation, la racine de vie humaine, pour aller à la rencontre des vies plus jeunes, cette racine projette un fil de vie, terme oriental sutratma, et arriver à la rencontre des robes de la mer, c'est-à-dire des plans inférieurs, ce fil de vie est englué dans la substance matière et se forme ainsi l'œuf. Auric, son corps de manifestation, le corps causal. Vous savez que lorsque l'esprit rencontre la matière, apparaît le fil de conscience. Cela est valable pour toute vie. Quand on dit conscience, ça ne veut pas dire forcément individualité de conscience. Il n'en reste pas moins que pour l'être humain, l'âme, l'union des deux pôles, esprit-matière, l'âme et l'unité de conscience. Mais cette unité de conscience, étant engluée dans ce qu'on appelle la matière, il va falloir que, en accomplissant son contrat de vie, c'est-à-dire aller plus bas au sein de la matière, cette descente dans la matière va se traduire pour elle par des corps de manifestation, corps qui sont autant de cercles infranchissables pour les vies mineures. Et dans toute l'aventure, pour l'unité majeure qu'est l'homme, la finalité va être d'épanouir son individualité de conscience et de cet état d'imperfection par le service aux vies mineures pour les libérer des pollutions accumulées. Dans ce processus d'élévation des vies mineures au ciel, donc de la matière au ciel, l'être assure sa propre libération et par conséquent résurrection de l'esprit. En d'autres termes, sa résurrection en tant qu'esprit. À partir de l'âme, au sein du corps causal, il va y avoir, par rapport au monde que l'être prend en charge, en cela je fais allusion à l'unité mentale, le corps mental concret, le corps astral, le corps physique, vous allez avoir trois atomes permanents, l'âme, l'être permanent, au sein de son corps causal, va avoir trois banques de données, j'emploie des termes adaptés à la science humaine, trois banques de données qui sont les atomes mémoire de chacun de ces corps. Ce qui veut dire, je fais une parenthèse, mais pour que ce soit bien clair à l'entendement, pour parler de l'atome physique, il se situe dans le corps énergétique, dans le corps éthérique, et au moment du retrait de sa manifestation physique, l'âme, notre unité de conscience permanente, récupère l'atome mémoire. Idem pour le corps astral, idem pour l'unité mentale. Dans le déroulement des renaissances, à chaque fois, l'âme réintroduit dans le corps concerné l'atome mémoire. Et c'est pour cela que lorsque l'être remonte, en tant qu'être, il voit se dérouler le vécu de chaque vie, de cette vie dernière, et il mesure les imperfections du vécu terrestre notamment. Il serait peut-être intéressant pour vous de savoir que l'équilibre en la matière est lié aux justes relations et aux agressions verbales, émotionnelles, physiques sur autrui. Lorsque nous remontons, nous sommes à nous juger. On se comprend bien, c'est nous qui nous jugeons. Nous sommes à mesurer nos faiblesses relationnelles. L'être humain a sa racine de vie, il a sa présence terrestre. Et puis, il y a cet être permanent, l'âme. Vous avez l'atome, l'unité mentale, le corps astral et le corps physique. Et par conséquent, il se projette. L'antakarana est le processus qui va s'effectuer tout au long de la traversée du règne humain. Pendant très longtemps, d'une façon totalement inconsciente. Il va partir, pour le faire, de sa présence terrestre. Et il va donc, dans la traversée du règne humain, commencer par édifier le corps physique. C'est-à-dire édifier la forme physique. Quand ce monde physique est ordonné, que ses facultés propres lui permettent de saisir tout son environnement, et je fais là allusion aux sens, aux cinq sens physiques, il va édifier son corps astral. Et dans ce processus, il va apprendre à relier son cerveau avec l'astral. Mais, détail technique, c'est le plexus solaire qui devient le lieu de conscience, il devient le champ de conscience. Hein ? Il faut savoir que nous avons notre corps éthérique, énergétique, sept centres principaux. Ces sept centres nous relient aux différents plans, c'est-à-dire les plans étant des champs de conscience. Essayez d'éliminer le regard de penser que c'est de la matière. Le terme matière est impropre. Pour l'occultiste vrai, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de matière. Il n'y a qu'un espace énergétique de différentes vibrations, puisqu'en fait c'est des vies qui, selon leur échelle d'évolution, se manifestent. Ce qui veut dire que, quand l'être est purement en conscience physique, il est en conscience du centre sacré et de la rate. Mais dans le temps d'aujourd'hui, la rate, pour l'homme ordinaire, la rate est devenue subconscient. Il n'en reste pas moins qu'elle reprend un rôle à un moment donné. Le mécanisme du pont de lumière, eh bien, inconsciemment, il va commencer par ce processus de relier. Dans le déroulement de la manifestation, vous avez deux lignes d'énergie qui sont naturellement mises en place. Le fil de vie, le fil de conscience. Mais pour se libérer et avoir la maîtrise demandée par son contrat de vie, l'homme a créé un troisième fil de réalisation. Il a donc à établir des contacts avec ses différents corps. Nous savons que chaque corps a ses propres centres. À part le corps mental, les corps ont les mêmes correspondances structurelles, puisqu'en fait, c'est des liaisons. Et par conséquent, eh bien, l'homme a à apporter réponse depuis le plus bas de sa manifestation jusqu'à sa source. C'est ce qu'on appelle l'antakarana, le pont de lumière. Que fait-il en faisant cela? Eh bien, il fusionne en lui les pôles de la vie. Ben, il unit les deux aspects, père, mère. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il participe à un antakarana beaucoup plus vaste qui concerne la planète et que l'on appellera l'antakarana planétaire. Il y aura un antakarana solaire, un antakarana cosmique.
C'est-à-dire que ce qui fait l'humain pour relier, en fait, ce qui fait, nous faisons ici pour nous relier et créer ce pont, et au niveau des différents plans que vous nous avez montrés, il y a aussi donc à créer ce lien, et au niveau cosmique aussi.
Chaque être humain, dans son processus d'édification du pont de lumière, participe par le fait même à l'antakarana planétaire. Chaque vie planétaire participe à l'antakarana solaire. Vous voyez le schéma? Nous avons une vie grandiose qui donne la vie à cet univers, appelé Parabrahman. Eh bien, cette vie grandiose, définit par son cercle infranchissable, gigantesque, un espace dans l'espace abstrait absolu. Et pour accomplir son propre contrat de vie, elle va entraîner dans sa manifestation des myriades de vies de différentes échelles d'évolution qui, à ce moment-là, déterminent par les vies les plus jeunes, les vies les plus évoluées, le pôle esprit d'un côté, le pôle esprit matière de l'autre. Mais vous comprenez bien que nous avons là une définition pour le mental. Il vaudrait mieux expliquer que, en fait, nous avons des vagues de vie toutes jeunes, emportées dans l'évolution par une échelle de vie plus évoluée. Et cela sans fin. Voilà. C'est vertigineux, mais c'est la réalité. Et par conséquent, l'antakarana, la réalisation du pont de lumière, c'est tout cette architecture évolutive. Parce que quand l'être établit un pont avec le champ de conscience supérieur, l'astral, il ouvre les portes pour des vies mineures de passer de la limitation du plan physique au plan astral. Et vous aurez ce phénomène qui va se répéter.
À un moment, on a parlé du processus qui se faisait de façon inconsciente et après de façon consciente.
Alors, dans le chemin de l'aller pour l'être humain, il est dans le quatrième règne. Il est prisonnier en tant que réalité d'être. Il n'est pas en conscience de lui-même. Je rappelle que la conscience de l'être du quatrième règne est la conscience de toutes les vies mineures de ses corps. Il est prisonnier. D'où les appétits physiques, d'où les passions et pulsions émotionnelles, d'où le raisonnement unique. Je caricature, mais c'est pour simplifier quand même. Ce qui veut dire que pendant les 700 vies de l'aller, il est prisonnier. Et ce n'est que quand il réalise, en tant qu'enfant prodigue, qu'il se retrouve dans des situations qui le met dans un état qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas sain et autre, qu'il s'interroge. En disant, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, pourquoi il m'arrive tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mais on va le voir dans l'évolution du processus, l'être que nous sommes doit d'abord ne plus être dépendant des vies mineures de son corps physique, puis de son corps émotionnel de passion, de pulsion, puis de la pensée unique, on va dire, collective. Il ne se distingue pas à la réflexion, il suit le mouvement. Il n'arbitre rien. Quand il a effectué des jonctions avec son unité mentale, et là je parle du cerveau physique, eh bien apparaît un triangle énergétique d'où va émerger la personnalité. Là, nous sommes 708. Ce qui veut dire que par rapport au monde qu'il a en charge, eh bien, il commence à les avoir adaptés à répondre, et par conséquent, ces trois mondes vont permettre à sa réalité de venir prendre en charge l'évolution de ces trois mondes. Ce que j'essaye dans mes propos, c'est de vous faire voir la réalité d'en haut. À savoir que notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental concret, c'est des mondes de vie mineure dans lesquels nous sommes dedans. Au même titre que celui qui donne la vie à la planète, eh ben, il a toute cette masse de vie en évolution en charge. Il faut échapper, si vous voulez, à la forme. Sans vous avoir déjà dit, quand vous rencontrez quelqu'un, ce quelqu'un peut avoir un très beau véhicule, il n'empêche que la sagesse est de vous dire qui est à bord, à qui ai-je affaire. Est-ce que c'est une illusion, un masque, hein, ou est-ce que ce que je vois reflète l'intérieur, hein. Je ne veux pas faire de discrimination, mais vous voyez très bien que vous avez des hommes qui sont beaux, des femmes qui ont un beau corps, l'intérieur parfois c'est lamentablement triste, hein. Hein, c'est pour vous dire attention, attention, hein. Bon. Alors, j'essaie de, à la fois de vous le faire voir dans le sens voulu, et il faut bien savoir que dans le monde où l'on est, l'être humain étant dans les ténèbres, il voit tout à l'envers de la réalité, et deuxièmement, d'imager pour que ce soit quand même pas trop abstrait. Il faut savoir, si vous voulez, prenons l'exemple, parce que je pense qu'il est bien adapté à ce qui se passe, à savoir, ici nous avons Cain, ici nous avons Abel. Dans notre réalité, nous sommes Abel. Dans notre devenir, nous sommes Cain. Quand je dis devenir, c'est une présence évolutive. De vie en vie, Cain progresse jusqu'à rejoindre Abel que nous sommes. Mais pour ce faire, il doit, dans un premier temps, sortir de la dépendance des vies mineures. Tout va vous être facilité si vous comprenez que chacun de nos corps, c'est des myriades de vies mineures jeunes. L'être humain est fait de myriades de vies composites. Nous ne sommes pas monolithiques. Si on peut prendre une image, chacun de nos mondes est un orchestre. Et nous sommes le chef d'orchestre. Pendant le chemin de l'allée, le chef d'orchestre, il est bâillonné, il est ligoté. Et les musiciens font du bruit, dans tous les sens. Voilà, c'est la cacophonie. Alors, c'est parce que les yeux restent ouverts, à moins de faire vraiment des grosses bêtises, qu'il impose son regard petit à petit aux vies mineures. Hein, si je veux prendre une image, il apprend à discerner.
En fait, c'est le passage, c'est la prise de conscience. Et après, on a conscience. En fait, c'est
oui.
Ça, c'est la prise de conscience.
Oui, et c'est pour ça que notre mental concret est un sens de synthèse. Le mental est un sens, S-E-N-S. C'est celui qui coordonne les autres sens. Votre œil regarde, transmet à votre cerveau. L'ouïe, pareil. Le toucher, pareil. Ah bah oui, le fil de réalisation en fait, c'est ce qui coordonne le processus qui va faire que s'établit les alignements d'abord avec l'être permanent et ensuite avec la racine de vie. Alors, je rentrerai peut-être un peu sur le sujet, mais ce que je voudrais surtout, c'est vous faire survoler pour qu'après, à la lecture, vous dites, bah oui, je vois, d'accord. Alors, jusqu'à relier notre être intérieur en prise de maîtrise et de conscience, le processus se fait d'une manière inconsciente. Un être qui est épanoui dans sa personnalité, moi, je, centre du monde, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ici. Ici, c'est le centre du monde. Donc l'être en tant que centre du monde ignore totalement ce qui se passe dans la réalité de son évolution. Il ne sait pas. Pourquoi ? Bah, simplement parce que la conscience collective ne lui a pas expliqué, et pour cause, parce qu'il y a eu chute à la lumière.
On pourrait dire qu'il est centré, donc sur lui, il ne voit pas vraiment qu'il fait partie de ce tout.
Bah, prenons l'occidental. Peu, aujourd'hui, je ne parle pas des êtres avancés, mais les êtres du quatrième règne, ils ne leur est pas donné déjà de comprendre qu'ils sont des êtres qui naissent, meurent, renaissent, progressent sans cesse. Les religions elles-mêmes s'emploient à les détourner de cela.
Oui, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même quelque chose en nous qui nous réveille.
J'entends bien, mais là je parle du quatrième règne. Je ne parle pas des êtres du cinquième, qui eux sont en aspiration spirituelle. Eux sont en quête. Ils veulent comprendre les règles du jeu divin. Bon, hein, nous sommes à ce stade-là, hein. Quand l'être va avoir épanoui son corps émotionnel, qui bien évidemment n'est pas séparé de l'épanouissement mental. C'est ce que les orientaux appellent kama manas, mental émotionnel. Mais il faut savoir qu'actuellement, le gros de l'humanité est dans ce processus, kama manas, c'est-à-dire mental émotionnel. C'est-à-dire pour ça que vous avez le succès de la publicité et de toutes les attractions, passions et pulsions. Les jeux, l'audio, les médias se font leur chou gras là-dessus. Eh bien, quand l'être progresse en réflexion mentale, il entre dans le processus d'émergence de la personnalité. Et par conséquent, c'est des êtres qui vont être bien dans leur basket de personnalité, à savoir beaucoup d'intellect, beaucoup de raisonnement. L'être raisonne. Et comme la fonction de l'unité mentale est d'abord mémoire, eh bien, il accumule connaissances et savoir.
C'est bien.
C'est dans l'édification de l'antakarana. Voilà. Il faut que sa présence terrestre soit un centre opérationnel. Donc, moi, je, centre du monde. Alors là, vous avez donc ce... Je le mets là en face 2. Hein, et vous avez le premier triangle qui se met en tant que unité centrale. Nous abordons là un autre sujet qui sera en son temps développé, mais vous avez là les prémices de ce qu'on appelle la science des triangles. Quand la personnalité est coordonnée, je suis obligé de décomposer, hein, c'est selon notamment les lignes énergétiques dont on a choisi l'être. Mais quand la personnalité est bien édifiée, à ce moment-là, il y a des ponts qui se font avec l'être permanent. Vous avez la première partie de l'antakarana. C'est la réponse intelligente, si vous voulez, à tel ou tel monde. La présence, donc l'être projeté dans son corps physique, dans son corps émotionnel, dans son corps mental, eh bien, maintenant, il y a même de répondre. Et donc, vous avez invocation, évocation. Notre être intérieur envoie des impulsions à sa présence terrestre. Ces impulsions, si vous vous souvenez, vont se traduire par différents aspects de conscience, à savoir l'être intérieur qui, lui, est une unité dans le vaste ensemble, eh bien, il va solliciter la présence terrestre pour qu'il s'ouvre à la vie de l'ensemble, c'est-à-dire de groupe. Mais vous aurez toujours la loi des clivages, c'est-à-dire que l'être, il ne va pas passer d'un seul coup au plus grand tout. Il va d'abord vivre sa famille, et puis son monde professionnel, et puis il va fonctionner encore en séparativité là-dessus. La réponse que Cain apporte permet à sa réalité intérieure d'intensifier sa lumière de discernement.
C'est un jeu de questions-réponses, en fait. Abel vient émettre des vagues de lumière qui font que Cain les perçoit ou les perçoit pas. S'il les perçoit, à ce moment-là, c'est là qu'il compte.
S'il les perçoit, il commence par vivre ce processus de mystique. Il saisit quelque chose en lui qui le met dans un état d'isolement. Il est aveuglé par cette lumière. Tellement pour lui, ça lui ouvre des horizons, des espaces, et il rentre en dévotion. Quand l'être a coordonné sa personnalité, il se prépare à la première initiation. Et pour que le triple pont, mais qu'il n'en fait qu'un, hein, c'est une torsade, s'intensifie, et qu'il entre sous impression de plus en plus continue de son être, il va être en probation. Ce qui s'accompagne, dans un premier temps, par la non-dépendance des appétits physiques, vous comprenez que ça accentue le canal, l'antakarana, avec le pont de lumière. C'est-à-dire que Abel, qui normalement n'avait pas les commandes, eh bien maintenant, c'est cette petite voix, pour être plus simple, que chacun de nous a et qui lui dit « Attention, hein, tu bois trop, tu manges trop, d'accord ?» Et à chaque fois, en fait, par la progression non-dépendance appétit physique, non-dépendance passion et pulsion émotionnelle, eh bien le canal, le pont de lumière, donc la maîtrise de nous en tant qu'être, Abel prend de l'emprise.
Par la construction de Cain, de ce solide canal.
Parce que Cain répond.
Petit à petit, ouais.
Cain répond. Il faut savoir que ce processus est éternel. Dans le cheminement d'accès à tel plan de conscience successif, chaque plan étant en fait, on y rentre, aspect mère, on y est, aspect fils, on veut en sortir, aspect père. Et le suivant, aspect mère, aspect fils. Bon. Eh bien, dans ce processus éternel d'avancer dans la lumière, eh bien, il y a une aspiration, et bien évidemment, comme il y a eu limite, ce qu'on appelle curieusement les ténèbres lumineuses, au sens où on ne peut pas aller plus haut, eh bien, vous avez là, pour toutes les vies, ce processus éternel d'Antakarana. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, le grand guide vous dit, je suis la voie. Or, la voie, c'est l'Antakarana. Suivez mon comportement, mes relations, la sagesse que je vous exprime et l'amour, et vous deviendrez la voie. Parce qu'en fait, la lumière est liée à notre être intérieur, l'être christique. Et c'est en cheminant qu'il est lui-même la voie. Parce qu'en fait, il devient le canal par lequel une vie beaucoup plus grande peut elle-même effectuer et remplir son contrat. L'antakarana du logos planétaire se concrétise par l'entrée dans le cinquième règne de 3/5 des êtres humains. Le contrat de vie, l'antakarana du logos solaire, c'est d'amener 2/3 des hommes du système solaire à l'état de Bouddha. Vous voyez ? Donc essayons de comprendre quand même, je dirais, les limites aveugles, à savoir, il n'y a qu'un Christ. Seul fils de Dieu. À ce moment-là, bah, comme on dit, on n'a qu'à être cool, hein. S'il n'y en a qu'un, c'est tout, on est tranquille.
La place est prise, donc on hein?
La place. Ah, bah oui, il a tout pris. Il n'y avait qu'un fauteuil, il l'a pris. Bon, laissons les ténèbres aux aveugles, mais intéressons-nous aux ténèbres lumineuses. Ça, c'est la première phase pour l'être humain de sa réalisation, c'est-à-dire d'invoquer et d'évoquer. Mais il l'invoque au sens où il aspire, voilà, il perçoit. Hein. En fait, il s'ouvre à la vie de groupe alors que précédemment, il était le centre du monde. Vous avez là des repères, si vous voulez, pour savoir si un être en est encore bloqué dans le quatrième. Bon, vous avez deux repères fondamentaux, c'est 1, la loi de renaissance ne lui convient pas, et 2, la loi de karma ne lui convient pas non plus. Bon, alors bien sûr, ça c'est des portes, bien évidemment, ces portes, en fait, elles ne sont pas définitives, hein. Mais en règle générale, l'être du cinquième règne, pour lui, c'est complètement naturel.
Donc en fait, ce sont des ponts, en permanence, on construit des ponts qui vont nous permettre de supporter toute cette énergie qui nous est proposée.
Chaque plan est un champ de conscience. Dans chaque plan, l'être, pour avancer, doit se mettre une unité de conscience, donc un corps. Et ce corps, il doit le développer pour percevoir toutes les subtilités de ce monde, et bien évidemment, il le fait par les sens, étant entendu qu'à chaque corps, il y a les sens subtils. On verra un jour les sens supérieurs. Bon. Mais c'est ainsi qu'en fait, il remonte. Le chemin de l'aller, c'est de descendre dans la matière, le chemin du retour, c'est de retourner, mais avec l'expérience.
Mais de toute façon, il ne pourrait pas supporter cette énergie qui descend s'il n'avait pas cette pompe qui est conseillée.
Si tu n'as pas libéré tes corps des vies lourdes qui te plombent, eh bien, monter à la fois t'es impossible et deuxièmement, tu brûlerais ta manifestation.
Là, vous disiez tout à l'heure donc, qu'il y a une évolution qui est progressive en permanence et ce processus de l'intégrana, ça veut dire que chacun des plans, déjà nous en tant qu'être humain, donc il y a cette évolution progressive. C'est-à-dire comme vous disiez,
toute vie grandiose, quelle qu'elle soit, et à partir du règne humain, est dans ce processus de retour.
D'accord, donc il y a d'abord un processus au niveau du corps physique, ensuite du corps astral, et puis du corps mental.
L'être descend dans la matière, ouais. Il est emprisonné. Ce qui veut dire que, en tant qu'unité centrale, il se récupère des myriades de vies mineures qui disent « m'intéresse ». Ils ne peuvent pas se le dire, mais c'est le processus. Et il lui faut se libérer de cet emprisonnement, et cet emprisonnement passe par élever ces vies mineures, c'est-à-dire les clarifier de toute la densité qui est leur. Alors il faut savoir, si vous voulez, que dans les vagues de vie involutives, les premières vies ne font pas partie des hiérarchies et même de la plus basse, parce que la réponse à la lumière de la matière, elles n'y répondent même pas.
C'est du chinois.
Non, elles sont sourdes et elles sont aveugles. Elles n'ont pas de sens. Hein, au sens. Bon. Et à partir de là, eh ben, elles ne répondent pas. Donc elles dorment. Alors au fur et à mesure, ce processus de puissance de vie grandit, croît et par conséquent, voilà. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que plus une vie est avancée, plus elle entraîne une réponse de vie mineure. Imaginez ce qu'est un contrat pour un homme céleste, pour un logos planétaire, pour un logos solaire, pour un logos cosmique. C'est que lui, il a amené en bien sûr, des vies grandioses, il n'en reste pas moins que ces vies grandioses elles-mêmes doivent accomplir leur contrat de vie. Et que tout ça fait que c'est un orchestre gigantesque.
Mais Bernard, l'impulsion première, si on peut l'impulsion première vient du haut. En t'entendant, j'ai eu l'impression comme s'il y avait des gouttelettes qui étaient transmises par exemple d'un arrosoir et qui feraient pousser. Donc l'impulsion ne vient pas du bas.
Non. Je renvoie aux principes fondamentaux de l'absolu. Premier principe, il n'y a aucune gloire à être cela. Ce qui veut dire évolution au mérite. Ce qui veut dire que l'absolu émet des vagues de vie qui, par l'infiniment petit, vont remonter jusqu'à l'infiniment grand.
Oui, ça m'embrouille encore.
Non, les vies qui sont émises,
oui. Elles
sont divines, puisqu'elles sortent de la source. Mais en tant qu'individualité de conscience, c'est calme plat. Donc, elles vont être dans un état de somnolence divine pour petit à petit, par le processus de réalisation mérite, ce qui veut dire du Fils, eh bien, elles vont lentement s'élever en tant que toute petite vie. Ce sera le temps des ions, le temps des électrons, le temps des atomes. L'évolution microcosmique, c'est-à-dire, si tu veux, c'est de la, j'aime pas dire ça, mais c'est de la poussière de vie émise. Parce que, par définition, la vie qui sort de l'absolu pour la première fois, elle n'a aucune conscience. Donc elle n'est pas malheureuse, c'est ça que j'essaye de te faire saisir, parce qu'en fait, elle n'a pas de conscience.
Oui, mais ça
bon, et surtout pas d'unité de conscience.
Oui, elle n'a pas de mémoire. Sa mémoire, elle commence...
Elle n'a pas de référence.
Voilà.
Donc elle vit dans un état nébuleux, divine. Elle est divine. Au même titre que pour amener à l'être humain, eh bien, dans la première race, la vie venant dans le règne humain, ils étaient divins de nature, mais en tant que conscience, ils étaient très très étroits.
Est-ce que ça arrive encore des êtres qui viennent pour la première fois?
Oh, pas dans notre aventure de schéma terrestre. Mais quand tu vas naître à ton évolution cosmique, tu vas engendrer ce genre d'aventure. Un jour, vous serez assis sur votre planète, bien sûr, c'est des images, et puis vous direz à votre ami voisin que vous avez connu dans le règne humain, et les tiens, ils sont comment? Ben, comme nous, pas mieux. Essayez de comprendre que la vie est don, que la vie est pensée en manifestation, c'est de la pensée. Ce que vous voyez matière, c'est une illusion de vos sens, et que tout est pensée. Et que, je le répète parce que c'est un point de référence capital, votre pensée projette votre futur. Ce que vous pensez, vous irez dedans. Vous faites du négatif, vous allez dans le négatif. Quand vous voyez des gens qui sont là dans des situations épouvantables de vie, eh ben, ils se l'ont écrit. Hein.
Pas forcément, parce que il y a des dettes, disons, carrément, à régler, oui. Voilà, donc ils ne l'auront pas forcément, disons.
Si, parce qu'Abel que nous sommes, il est très préoccupé pour sortir du règne humain. Et il dit à Caïn, mon bonhomme, j'ai pas d'autre solution pour toi, pour te libérer, que tu passes par ça. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est la seule chose qui n'existe pas dans l'univers. Le hasard, c'est quand la main du Père veut être discrète.
Parce que le karma, on le crée par pensée, par parole et également
en acte. Absolument, absolument. Et nous sommes notre propre juge. Ce qu'il faut sortir de l'idée, si vous voulez, c'est que ce qu'on appelle les seigneurs de karma, le premier agent karmique, c'est notre être intérieur, qu'on se comprenne bien. Et lui fait appel aux seigneurs de karma pour qu'il dresse en accord avec lui à Caïn les épreuves libératrices, et par conséquent, c'est des opportunités. Un seigneur de karma, pour être qualifié dans cette fonction, doit avoir une dimension d'amour et de sagesse totalement acquise. Donc il ne fait rien pour punir, mais pour aider. Voilà. Alors, retenez bien, hein, on est sur le sujet, le karma, c'est la main du Père qui intervient pour que ça n'aille pas plus loin dans la catastrophe. Là encore, vous avez une lecture inversée des choses.
Il y a quand même le libre arbitre, il intervient pour qu'on n'aille pas plus loin, mais est-ce que certains, finalement,
ça ne va pas. Chacun est libre dans l'aventure. Avant de revenir, on écrit son parcours de vie essentiel. L'être du quatrième règne, lui, il a un parcours de vie individuel. C'est-à-dire qu'il va à l'aventure. L'être du cinquième règne, lui, c'est pas le même processus. Il revient en groupe, d'une part, en tant qu'unité de groupe, et il bénéficie de l'assistance des seigneurs de karma. Alors, si vous voulez mieux comprendre ce que Dieu aime, il les châtie, ben voilà. Humainement parlant, c'est la lecture que vous en ferez. En tant qu'être que nous sommes, hein, j'insiste là-dessus, ça, Caïn, lui, Caïn, c'est une ombre, bourrée de vie mineure. Eh bien, nous, en tant qu'être, on aspire à sortir du règne humain. Mais le libre arbitre de chaque vie fait que on peut se prendre des casseroles au passage. Et il faudra faire le ménage. Et il n'y a pas de lave-vaisselle.
Et là, quand vous dites... maître du cinquième règne devient le groupe bénéficie donc de l'assistance du Seigneur du Karma, c'est-à-dire que là, déjà, quand on est dans ce mouvement-là, c'est d'être conscient que chacune des expériences et des épreuves qui nous arrivent sont effectivement pour nous faire évoluer et que si on est
pour aligné, nous libérer aussi,
voilà,
pour nous libérer.
Et si on est aligné donc avec le Seigneur du Karma, donc on aura les éléments nécessaires pour sortir de cette crise.
Alors, pour préciser, nous sommes dans le cinquième règne. Ça veut dire que l'antakarana avec nos présences dans les mondes inférieurs est établi et nous avons les commandes. Bien sûr, progressives. Bon, mais à un moment donné, c'est plein pot. Eh bien, Abel, il serre les boulons. Hein. Il dit, mais attends, hein, là, t'as vu ton club de vie mineure, là hein? Alors, là encore, pour que ce soit bien appréhendé, c'est l'hydre à neuf têtes, dont je vous rappelle les aspects. C'est le sexe, bien sûr, dans son aspect dépravation. On se comprend bien. C'est-à-dire, si ce n'est que de la jouissance comme telle. Sans vie d'amour, l'argent, qui est l'énergie du matériel, et qui entraîne l'accumulation de biens, de richesses, et qui doit avoir une dimension spirituelle, c'est-à-dire de permettre à d'autres êtres de progresser dans le bien-être matériel. Mais ce bien-être matériel signifie le confort et surtout pas le luxe. Alors, c'est en ça, si vous voulez, que le bien-être physique, eh bien, nous devons prendre une part confortable, mais surtout pas, comme on dit, accumuler des biens et des richesses. Bon, sur le plan émotionnel, vous avez la haine, l'ambition et la peur. Donc chacun d'entre nous peut mesurer ce qu'il a peut-être encore à équilibrer. Sur le plan mental, vous avez la cruauté, l'orgueil et la séparativité.
Par exemple, sur le plan mental, on rencontre des gens et puis on se rend compte qu'on ne peut pas leur parler de ce qu'on sait. Parce que même si c'est des personnes très évoluées mentalement, que ça n'accroche pas. Alors, on opère une séparativité.
Non, parle-en à ton chien ou à ton chat.
Ils comprennent, hein.
Ah, mon chat, il entend tout.
Il va ressentir des vibrations qui, ultérieurement, comme on dit, lui auront favorisé. Mais c'est la phrase du patron il y a 2000 ans, « Ne donnez pas vos perles aux pourceaux ». Bien sûr, il ne traite pas les hommes de pourceaux, mais simplement, allez donner des perles à un cochon, vous allez voir s'il préfère pas les patates. Ben, l'aide du quatrième règne, il n'est pas prêt. Tu vas lui parler de choses dont il n'aura l'éveil que dans 5 ou 10 vies. Donc tu perds ton temps. Et en cela, tu manques à la lumière. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre. De toute façon, pour répondre de façon inverse à ce que tu évoques, quand deux êtres sont en état d'échange, c'est en fait ton être et l'être de l'autre qui se mettent en contact. Et l'autre, tu verras que dans la très très grande majorité des cas, il est demandeur. Lui saisit qu'il a une opportunité pour comprendre certains éléments de ce qui est sa quête de richesse intérieure. Tu vois, alors laisse venir. C'est une petite faiblesse débutant.
Peut-être qu'on n'a pas aussi les forces.
Si tu laisses venir, eh bien dis-toi bien qu'au-dessus de toi, par le fait de la conscience de groupe, tu auras peut-être sur le plan mental ou sur le plan bouddhique, tu auras peut-être un être qui va t'inspirer. Et donc ça te sera facile. Hein? Est-ce que tu vois bien la nuance? Il ne faut pas douter. Je veux dire par là que ayez conscience de l'unicité de la vie et de l'unité de la vie. Je veux dire par là que si tu es clair, si tu es authentique, si tu es en simplicité, en humilité, tu es à la disposition d'un être qui utilisera ton canal pour s'exprimer. Ça s'appelle l'adombrement.
Là, l'initiative vient de l'autre. Nous, on laisse venir, on n'a pas l'initiative.
Non, au début, surtout, respecter le processus, laisser venir. et vous aurez des situations parfois tout à fait surprenantes, au sens où la personne vous dira, mais je vous connais pas, et en une heure, j'ai parlé de choses très importantes pour moi, et j'ai jamais abordé ça avec n'importe où. Et je vous connais pas, et puis voilà que. Ben voyons.
C'est le rayonnement.
Le rayonnement et l'harmonie entre les deux êtres. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut, être attentif au fait, d'un côté, de ne pas vouloir aller pour convaincre l'autre, hein, mais de l'autre côté, faisons attention de ne pas refuser de servir là-haut si justement la rencontre était prévue par là-haut. Et c'est un fait commun, hein, je veux dire, par là, il ne faut pas... Vous savez, il faut que vous compreniez la simplicité des choses divines. L'être humain complique, mais plus il grandit, plus ça devient simple.
Ce sont les peurs qui nous font compliquer.
Ben oui, c'est bien justement la démarche active du négatif. Alors, on a vu les 9 têtes de l'hydre, et il y a quelque chose aussi à saisir, c'est le faux. Si vous savez que l'énergie du plan physique cosmique, la nature de cette énergie est le vrai, eh bien le négatif, lui, a essayé de flouer et donc de faire des brouillards de faux. Alors c'est très pernicieux parce que cela atteint à la caractéristique fondamentale de l'intuition. Vous savez que quand on passe au-delà de l'âme, on accède à une faculté supérieure, le mental ne devenant plus que le véhicule d'expression, et la nature de conscience du plan bouddhique, c'est l'accès à la réalité sans avoir à raisonner, ça s'appelle l'intuition. L'être sait que c'est la réalité. Vous comprenez bien que le négatif, en fait, essayait de barrer la faculté intuitive christique de l'être humain. Alors l'effet est terrible parce que lorsque l'être a été pris dans le faux au cours de ses vies, il a perdu son axe d'équilibre. Et il ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux. Et le doute étant moyen, comme on dit, de désaxer cette faculté.
C'est ce qui fait qu'on a une impression que c'est bon, quelque chose X, puis on peut changer d'idée.
Alors, je reprends ce que je vous ai déjà évoqué. À toute pensée, à toute lecture, il faut une essence pour qu'il y ait lumière. Quand vous avez un événement, vos vies mineures, physiques, émotionnelles, mentales, concrètes, vont fournir lecture, mais c'est la lecture du club, du genre, patron, chef d'orchestre, c'est comme ça que tu nous as habitués. Résultat, faites attention, vous avez d'abord, et c'est pour ça qu'il y a les 12 secondes, vous avez d'abord, comme on dit, une expression lunaire de la situation. Et vous avez 12 secondes pour arbitrer en discernement et apporter, bien évidemment, la réponse de sagesse.
Oui, alors c'est bizarre, je me permets de faire une intervention, parce qu'en général, on s'est dit, pourtant, c'est souvent la première impression qui est la bonne. Et que quand on commence à réfléchir, etc., à ce moment-là, on se...
Tu fais référence à un autre aspect. Tu fais référence à la lecture vibratoire d'un contact. J'explique. Vous allez dans un lieu, okay. Et puis vous dites, ah, je me sens bien ici. Ah, je me sens pas bien. Et puis après, bon, vous raisonnez. Hein? Donc, ça me plaît, ça me plaît pas. Ça, effectivement, c'est une impression, mais qui est liée à ta perception énergétique. D'accord ? Au même titre que tu vas dire, je le sens bien, je le sens pas bien. Mais c'est subconscient, je veux dire, c'est automatique. Mais là, on n'est pas sur la même nature de lecture.
Ou même quand on rencontre personne.
Ben oui. Là, on est, si tu veux, dans un échange. Je veux dire par là que tu rencontres quelqu'un, il te traite de con, t'es quand même pas à dire « je vous fous mon poing sur la gueule hein ». T'en es plus là avec tes lutins, tu les as quand même un peu civilisés, mais tes lutins peuvent peut-être te dire, bon c'est rien, il perd rien pour un temps, non, on lui fera sa fête. Et c'est là où tu dois arbitrer, tu comprends? Parce qu'en fait, tu as fait rentrer tout un club qui sont ta nature actuelle, relative, et puis si tu dis rien, ben ils vont te dire, patron c'est comme ça, nous on est habitués comme ça, tu nous as habitués comme ça, tu nous tolères comme ça. Est-ce que vous voyez, hein, j'essaye de mettre un peu de folklore pour vous voyez bien que, en fait, il y a ou nos vies mineures qui répondent, on va dire, par instinct, hein, ou on fait l'arbitrage. Et c'est tout ça qui fait que, si vous voulez, on réalise ce processus.
Mais ma question était inverse. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose d'avoir la conscience parfaite que c'est exactement ça. Et puis d'un coup, on dit, mais c'est inverse, là. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait l'intellect qui se mettait par-dessus, ou les petites vies, ou tu les appelles comme tu veux, et qui te fait douter.
C'est l'axe qui
part. Ou alors tu changes l'axe.
Doute, faux. On appréhende le sujet. Hein. Donc, je ne personnalise en aucune façon. Mais quand un être dans ses vies passées a été dans le doute qui est la salle avant le faux, eh bien, il est un peu désaxé par rapport à l'alignement intuitif.
Alors, les Normands ont du bon à se faire.
Ça a dû être un vivier intéressant pour le faux.
Pour une personne, par exemple, on est dans la rue, on est attaqué, même attaqué par une personne qu'on connaît, on ne s'y attend pas physiquement.
Alors, dans les 12 secondes, tu déploies une table, tu poses tout sur la table, tu prends du recul et tu donnes la réponse.
Oui, mais si on est attaqué par dans la rue, la nuit...
Attends, là, tu modifies un petit peu. Là, tu dois avoir un instinct de conservation qui doit fonctionner. Hein, si tu as un parapluie, tu y vas gaiement.
Il faut crier au feu. Que les gens sortent aux fenêtres.
Premier cycle de l'antakarana, l'union, la fusion avec notre être intérieur. Qui veut dire, l'antakarana est réalisé dans ce processus, première partie, par la fusion d'Abel avec Cain. Et là, nous avons un être du cinquième règne. Et commence véritablement l'antakarana. Alors pour ceux qui connaissent la Bharatmanta, vous avez là le symbole, parle évidemment au Deva. Puisque ce symbole, en fait, indique lieu où vivent des êtres de lumière à protéger. Vous avez le triangle de la Trinité divine, vous avez le triangle de la personnalité, et maintenant, il s'agit d'unir les deux pôles. Avec, bien évidemment, symboliquement, la destruction du corps causal. Puisque, dans cet achèvement de processus, les deux pôles de la vie fusionnent. Alors, techniquement parlant, ici, vous avez l'unité mentale, qui est sur quatre sous-plans, les quatre sous-plans inférieurs du plan mental. Et, techniquement, là, vous avez le pont de lumière qui doit se faire avec le mental supérieur. Vous avez l'ouverture de jonction entre l'unité mentale et l'atome manasique. Ce qui veut dire que là, l'être va au rendez-vous du Père en vous rappelant que sur le plan monadique, vous avez l'âme de l'homme céleste, sur le plan atmique, son corps mental, sur le plan bouddhique, son corps astral, et son corps éthérique, et que par conséquent, vous avez union avec celui qui donne la vie à la planète. Dans ce processus de jonction des corps entre eux et des centres entre eux, hein, on verra ça dans la science des triangles, les centres se relient et puis fusionnent et tournent en différentes dimensions, eh bien vous avez le pont de lumière correspondant dans le corps physique, je parle du corps physique dense, qui est cette masse nerveuse qui se déploie à la base du crâne et qu'on appelle le centre alta majeur. Ce centre alta majeur établit le pont de jonction entre le corps physique et la tête. Alors, vous savez que le corps causal se déploie en pétales, et qu'il y a trois rangées de pétales avant les trois centraux, et que les pétales, en fait, c'est l'énergie qui monte de la mère, l'énergie qui descend du père. C'est ce qui fait un pétale. Bon. Et que par conséquent, tout le travail de l'être du cinquième règne, ça va être d'établir les jonctions jusque sa présence terrestre avec les plans supérieurs où il a son corps bouddhique, son corps atmique et sa racine de vie, et son corps manasique. Voilà. À partir de là, le canal, le pont de lumière se réalise. Si vous êtes attentif au vrai. Vous êtes en alignement manasique. Si vous êtes attentif au beau, vous êtes en alignement christique. Le beau, cela s'entend, c'est la pleine manifestation d'amour-sagesse. Je fais à autrui ce que j'aimerais qu'autrui me fasse et j'aide l'autre à devenir meilleur. Nous avons d'un côté, et le dossier vous expliquera techniquement comment ça se déroule, je préfère que vous ayez bon fonctionnement du processus, c'est-à-dire comment cela se met en réalisation. Si, par nature, par instinct, non plus spirituel, mais divin, je vous rappelle, l'amour-sagesse a comme appellation d'énergie, énergie spirituelle, la volonté divine, énergie divine. Quand, dans votre vie, dans votre vécu, vous veillez au bien de l'ensemble, vous pensez en tant qu'observateur de ce monde, au bien de l'ensemble, même si ça se limite, ce que vous avez l'impression, à votre espace mental, eh bien, vous semez dans le mental humain. Alors vous allez me dire, oui, mais l'aventure, c'est faire comme si. Vous voulez être divin, faites comme si vous l'étiez. Tu ne vas pas t'attendre que d'un seul coup, tu as un grêlon divin qui te tombe sur la tête. Ah, ça y est, ça y est. Non, il faut faire comme si. Simplement, nous avons, je pense, depuis le début des cours, appréhendé tout un ensemble de repères de conscience qui font qu'on peut tenir bon. On évoquait les 12 secondes préalablement. Bon, ben voilà. Dans cette aventure supérieure, l'être intègre en conscience que tout sa marche est pour devenir un centre dynamique de vie et de lumière. Le but de l'instruction, c'est pas de vous livrer l'ensemble de la connaissance, c'est de vous amener à être ce que vous êtes, un centre de vie et de lumière.